franceinter.fr.
Merci d'être fidèle à France Inter, c'est déjà la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Patrick Boyer.
Aujourd'hui, vous nous parlez des sapeurs-pompiers.
Ben oui, vous parliez des glaçons, on va parler du feu.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les pompiers en France.
De barbe, sainte fleur, de la couronne du Seigneur.
Les amoureux d'un pompier, d'un pompier, de sa moustache, de ses bottes tirées, pour les beaux yeux d'un pompier, souvent je pleure.
Lorsque le tonnerre tombera, sainte barbe te gardera.
Sitôt qu'un danger menace, il est de premier rang. Serrant de son poing sa hache, il avance, il fait face. Quand il a vaincu les flammes, quand la foule l'acclame, boutonnant sa veste, il rougit et proteste car il est très modeste.
Les artilleurs, les pompiers, les marins ont pour patronne Sainte Barbe.
La martyre Sainte Barbe, dont le persécuteur aurait été frappé par le feu du ciel, a été déclassée dans le calendrier romain des saints. Les sapeurs-pompiers de Paris, unité hautement militaire, peuvent lui préférer la figure du 14 juillet, plus patriotique, mais les quelques 250 000 pompiers dispersés à travers la France continuent de la fêter le 4 décembre. Et cette fête offre l'occasion de reprendre l'histoire d'un corps aux membres multiples. À Paris et à Marseille, ce sont des soldats du feu, mais dans l'ensemble du pays, organisés en services départementaux, ce sont des civils qui arborent des uniformes, des grades, acceptent la discipline, mais ne sont pas pour autant soumis à la rigueur militaire. Mais d'où viennent-ils ? Avec quels moyens ont-ils combattu le feu ? Et d'ailleurs, l'incendie est-il encore vraiment la seule spécificité des pompiers ? Nous avons parmi nous Dominique Pagès, je ne vais pas vous dire commandant. Bah si, vous l'êtes. Après avoir imaginé de devenir pharmacien dans une officine, vous êtes devenu officier dans un corps de pompiers dans le sud de la France. Alors c'était votre vocation, mais vous êtes frappé d'une maladie, d'une addiction. Vous ramassez tout.
C'est une habitude que j'ai pris très, très jeune et enfant de garder, d'amasser. C'était une époque où tous les fournisseurs donnaient des petits souvenirs que j'ai gardés, que j'ai encore. Et donc, cette habitude s'est perpétuée pour arriver à venir effectivement une vraie addiction qui fait que ça a été le deuxième souci de ma vie. Ça a été la collection, et en particulier sur les sapeurs-pompiers.
Alors, dans votre collection, 400 casques, des uniformes, du matériel, des gravures. Et vous publiez un livre aux éditions Gossen qui s'intitule « Garde-pompe et pompiers » qui présente un peu de votre musée. C'est un musée où on peut entrer ?
C'est une collection privée qui est installée comme un musée, c'est à mon domicile et ça m'arrive d'y recevoir d'autres collectionneurs.
Il faut montrer patte blanche.
Un ami m'a dit qu'il faut montrer quatre pattes blanches.
Donc mieux vaut acheter ou lire le livre « Garde-pompe et pompiers ». Il va falloir que vous nous expliquiez, Dominique Pagès, comment le terme a changé. Est-ce que c'est exact de dire qu'il y a eu une spécialisation progressive? La lutte contre l'incendie au départ, c'était l'affaire de tous, l'affaire des moines, l'affaire des corporations du bâtiment. Et puis un corps, peu à peu, s'est constitué au XVIIIe siècle.
Le grand virage de l'organisation, c'est l'apparition et l'introduction en France des pompes à bras. Avant leur apparition, la lutte était faite par la population. La population la moins formée s'occupait de la chaîne des seaux. Et les corporations, les métiers, les maçons, les couvreurs travaillaient à l'extinction. Tout ça dans un joyeux désordre, pour arriver à des résultats plus ou moins efficaces, puisqu'il est arrivé parfois que des villages entiers brûlent. Et puis, un certain Dumouriez a ramené de Hollande une machine qui était une pompe à bras. Donc c'était une machine qui permettait de projeter l'eau. Elle n'éliminait pas l'arrivée d'eau par les chaînes, mais elle permettait d'envoyer l'eau beaucoup plus précisément. Donc à partir du moment où il y avait machine, il a fallu des gens entraîner à la faire fonctionner, il a fallu l'entretenir, il a fallu la remiser, il a fallu pouvoir identifier les gens qui servaient ce matériel. Et c'est à partir de là que, petit à petit, ces corporations qui servaient un peu dans le désordre ont été encadrées pour former les premiers corps qu'on a appelés des gardes-pompes.
Alors dites-moi, ça marche quand même pas tout à fait bien. La légende nous explique que le désordre continue de régner même dans le corps des gardes-pompes. 1811, 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe, mais 2011, c'est l'anniversaire de 1811. 1811, c'est la militarisation du corps des gardes-pompes à Paris par l'empereur, qui, il est vrai, avait été assez mécontent des conditions dans lesquelles s'était déclenché un incendie à l'ambassade d'Autriche où il recevait pour son mariage avec Marie-Louise.
Alors, le problème du fonctionnement de ces corps de garde-pompe, c'était d'arriver à maintenir l'enthousiasme des participants malgré la rareté des feux. D'autre part, le stockage du matériel était fait dans les communes et ce matériel, en particulier les seaux, était très souvent emprunté. Donc on retrouve partout des endroits où, quand il y a un feu, on réorganise. On réorganise pourquoi ? Parce que les seaux étaient percés, la pompe ne marchait plus, les rats avaient mangé les tuyaux, les gens n'étaient pas formés. Et c'est un peu ce qui se passait aux gardes-pompes de Paris comme ailleurs, puisque vers 1803 ou 4, le préfet de police de Paris avait été obligé de rassembler les gardes-pompes pour pouvoir les compter.
Ouais. Et pas de chance pour le préfet de police en 1810, au moment de l'incendie de l'ambassade d'Autriche, il n'était pas là non plus que le chef des gardes-pompes qui avait oublié de prévenir son adjoint qu'il fallait le remplacer. Donc Napoléon prend les mesures qui s'imposent, dit l'histoire officielle, gymnastique, exercice physique, casernement, uniforme. Mais quand on voit votre livre « Garde-pompe et sapeurs-pompiers » chez Gossen, Dominique Pagès, on voit des uniformes de la période suivante. On est maintenant sous la Restauration, après 1815. Et les simples pompiers de province, là je ne parle pas de ceux de Paris, portaient des uniformes rutilants.
Alors effectivement, le retour de la monarchie a provoqué, avec l'intérêt qu'avait la bourgeoisie et la noblesse de province pour les nouveaux matériels dont faisait partie cette fameuse pompe, les a attirés à s'occuper de ces organisations. Et comme les équipements étaient à leur charge, ils ont voulu remettre au goût du jour les fastes de l'ancien régime au travers de leurs uniformes.
Oui, enfin, on gagne comme ça en noblesse, mais peut-être pas en efficacité.
Alors, pour donner une idée de la magnificence de ces tenues, il y avait quelques tenues et des casques en particulier qui ont gardé le nom de casque d'officier des bâtiments royaux. Donc ça donne l'idée du faste qu'avait la fonction de chef d'un corps de sapeurs-pompiers dans une ville de province où il y avait quelques bâtiments prestigieux.
Revenons un instant à Paris, parce que voici maintenant un incendie en direct sous la monarchie de Juillet. Nous sommes un peu plus tard, dans les années 1840, en plein mystère de Paris, l'immeuble des Pipelet. Vous savez, les Pipelet, c'est les patrons des concierges, comme la Sainte-Barbe et la patronne des pompiers, est en feu.
Quel feu ? C'est la maison des Pipelet qui brûle !
Allez, vous cherchez du secours, vite !
Mets-toi à gauche, pour laisser passer les pompiers !
Mais faudrait de l'eau. Faut faire la chaîne.
Laissez-moi passer, c'est chez moi.
Allez, cherchez
mon mari.
De l'eau. Faites la chaîne.
Regardez, les voilà.
Allez chercher la barge.
Oh mon Dieu, il est blessé.
Apportez la barge. Allez, avancez. Tendez la barge. Allez-y, il est attendu. Lancez-le!
Mon Dieu! Mon Dieu!
Il n'a pas de mal! Allez, continuons la chaîne! Envoyez!
Ça y est, monsieur Pipelet est sauvé, mon Dieu. Mais il tombe dans une bâche. Et on alors, se servait de bâche.
Oui, alors c'était le... C'était un des moyens qui parait à l'absence d'échelle. On tendait une grande toile le plus haut possible pour y récupérer dedans les personnes qui se jetaient, il faut espérer, de pas trop haut. Mais le matériel a assez rapidement évolué. Et par exemple, pour suppléer à ces bâches, on avait déjà fabriqué ce qu'on appelle maintenant la chaussette. C'était une espèce de tube en toile qu'on amenait au niveau des fenêtres dans lequel les gens étaient mis et glissaient jusqu'au sol. Donc la bâche, ça rappelle plus les pompiers américains, mais ça a effectivement existé faute d'autres moyens, et dans l'urgence, on utilisait ou des matelas ou des...
Sous la monarchie de Juillet, ce sont les gardes nationales, les citoyens qui montent la garde et qui font le guet, qui sont responsables du service des incendies. À un moment, la garde nationale est supprimée et elle existe de nouveau sous le Second Empire, que vous décrivez comme un âge d'or. Alors là, les effectifs triplent, et c'est encore plus prestigieux d'être un pompier qu'auparavant.
Alors, la garde nationale sous le Second Empire, elle est, à la suite de la monarchie de Juillet, où elle était assez populaire, Napoléon s'en est méfié et a... la réorganiser en la mettant totalement, c'est le cas de le dire, à sa botte.
Napoléon III.
Il a effectivement, c'est lui-même qui désignait les officiers qui devaient prêter serment à l'empereur. Mais parallèlement, l'économie en France s'était développée et les moyens nécessaires se sont multipliés par les usines, par l'industrie. Toutes les petites communes commençaient à acquérir des pompes. Quand une commune en avait acheté une, la voisine en faisait de même. Et ainsi se multipliaient les pompes, donc se multipliaient les sapeurs-pompiers pour les servir.
Et puis les occasions de fêter les sapeurs-pompiers dans les gravures et dans la chanson. À l'époque, c'était Nanterre qui était l'exemple ou la caricature du corps de bonne compagnie.
France, un corps charmant, plein de vaillance. D'Auguste Corps, c'est les pompiers qui de Nanterre sont les braves troupiers. Ce corps-là, sacre bleu, bien qu'il éteigne les flammes dans le cœur des plus belles femmes, tous les jours il met le feu. Quand ces beaux pompiers vont à l'exercice, pleins d'une noble ardeur pour les admirer. Calalapa, ils embrassent d'abord leurs femmes et leurs fils, puis sans murmurer dans Nanterre, ils vont manœuvrer. Zimlaïla, Zimlaïla, les beaux militaires. Zimlaïla, Zimlaïla, que ces pompiers-là. Zimlaïla, Zimlaïla, les beaux militaires. Zimlaïla, Zimlaïla, que ces pompiers-là.
Et regarde Augustin, quelle fière allure il a près de sa pompe.
Mon Dieu, quelle beaux âmes! On dirait des Romains.
Vive les pompiers!
Vive les pompiers!
Vive les pompiers!
Fin du Second Empire, 1868, interprétation ici, plus tardive, de Bach et Laverne. Ils sont beaux comme des Romains, ils ont l'apparence de militaires. Enfin, ce sont des hommes de fête, de bal, que ces pompiers de Nanterre.
Alors les pompiers en général sont à ce moment-là très nombreux, les feux sont relativement rares et les pompiers sont employés à toutes sortes de manifestations. D'abord, sous le Second Empire, ils sont désignés par le préfet pour accompagner les élus dans les différentes manifestations. Ils ont récupéré les sapeurs à porte-hache, dit sapeur à barbe, avec ses bonnets à poils qui précèdent leur défilé, qui faisaient également partie de la garde nationale. Et petit à petit, ils vont être les organisateurs de la vie locale dans tout ce qui est festivités, les bals, les fêtes, et petit à petit, les concours. Ils sont armés, donc ils organisent des concours de tir, de gymnastique, et toute autre sorte de manifestations qui font qu'ils sont les animateurs des communes par l'intermédiaire de nombreuses associations qu'ils animent.
Fin d'une époque avec la Commune de Paris en 1871, 2000 pompiers des environs de la capitale, peut-être ceux de Nanterre, j'espère qu'ils sont efficaces, et des provinces angoissées convergent vers Paris pour participer à la lutte contre les incendies de la Commune.
Paris brûle comme une immense torche. Les communards ont mis le feu aux Tuileries, le palais des rois et des empereurs. Oui, le délégué Pindy a mis le feu à l'hôtel de ville. Pas question de laisser le palais du peuple aux mains des Versaillais. Les Versaillais qui ne font plus la guerre, mais la chasse à l'homme. Maintenant, c'est le massacre. C'est l'abattoir. Par 5, par 10, par 20, on fusille. Il y en a trop. On finira par utiliser des mitrailleuses et des canons
à mitraille. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les pompiers, garde-pompes et pompiers, c'est un livre chez Gossen, du commandant de pompiers et collectionneur Dominique Pagès. Alors, il n'y a plus de garde nationale après la commune. Une nouvelle république s'installe qui va mettre au point très vite un décret fondateur sur lequel on a vécu pendant plus d'un siècle.
Voilà, alors la République est obligée de trouver une nouvelle organisation puisque les sapeurs-pompiers ne sont plus rattachés à la garde nationale qui n'existe plus. Elle est remplacée par la conscription et donc on crée un statut dans lequel on définit la fonction du volontariat. Et en fait, c'est le début du volontariat tel qu'on le connaît maintenant. On organise les corps de sapeurs-pompiers sur la base de la population qui veut bien se mettre à disposition pour servir la commune et le matériel dont elle dispose.
Alors le matériel, il va s'améliorer sensiblement. On n'est bientôt plus à l'époque de la pompe de Dumouriez, continuée depuis le XVIIIe siècle. L'évolution des moyens, aussi bien en matière de matériel qu'en matière de prévention. Elle est rythmée par les grands incendies spectaculaires qui servent de repère, date charnière, 1897. Des catholiques de la Bonne Société ont organisé, non loin des Champs-Élysées, rue Jean Goujon, un bazar de la charité, une structure provisoire, très légère, qui va prendre feu, témoignage d'une survivante, Madame Accursi.
J'avais 4 ans et demi.
Oui.
Et alors je suis partie avec ma mère et puis mon frère. Et nous sommes arrivés au bazar de la charité. Et nous avons trouvé M. Feulard, Mme Feulard et Germaine Feulard, qui était un médecin connu de cette époque-là. Et nous, enfants, nous nous sommes amusés. Il y avait une tombola. Et mon frère a pris des billets de tombola. Et à un moment donné, maman a dit, écoutez mes enfants, il faut que nous partions. Il est 4 heures passées. La petite Germaine Feulard, avec laquelle nous étions, a dit, oh madame, c'est le plus beau jour de ma vie. Et puis Henri a des billets de tombola, il va certainement gagner le gros lot. Je vous en supplie, laissez-le moi. Et par chance, maman était très pressée, mais n'a pas voulu laisser mon frère. Ça a été une grande chance. Bon, tout. Alors, nous sommes partis. Nous n'étions pas encore arrivés aux Champs-Élysées. Il arrive des voitures de pompiers en trombe. Il y avait un agent à côté de nous, elle dit, mais enfin, monsieur l'agent, où est l'incendie? Mais madame, c'est le bazar de la charité qui brûle. Oh non, dit maman, j'en quitte à l'instant. Mais madame, c'est pourtant le bazar de la charité qui brûle. Alors maman, affolée, dit, oh mes amis. Il dit, oh non, madame, on ne passe plus. Et maman est tout de suite partie chez madame Feulard. On l'a trouvée dans son lit. Toute la figure était brûlée, elle avait comme un masque tout noir sur la figure. Le nez, les joues, le front, tout était brûlé. Mais comment ça s'est-il passé? Alors Madame Feulard a expliqué. J'ai été entraînée par une quantité de gens complètement affolés. Je suis sortie comme une bombe dans la rue. Et des gens l'ont vu, son chapeau brûlait et ses cheveux brûlaient.
Enfin, sortir comme une bombe, ce n'était pas facile parce qu'il fallait se frayer un chemin. Les issues de sécurité étaient tout à fait insuffisantes. Et puis, alors, les voitures qui arrivent en trombe, je ne suis pas sûr, en 1897. Alors, de quel matériel disposait-on?
Alors, à cette époque-là, ce sont les premières machines qui suppléent la pompe à bras. C'est la pompe à vapeur, qui est introduite en France vers 1880 environ. Mais cette machine imposante, énorme, qui nécessite beaucoup d'eau, tant pour la faire marcher que pour l'alimenter, sera de courte durée, parce qu'elle est très difficile à mettre en œuvre, parce que les réseaux d'eau sont peu répandus, et seules quelques grandes villes comme Paris, Lyon ou Strasbourg, Le Havre, quelques très grandes villes auront des pompes à bras. Elles auront une durée de vie éphémère, dans la mesure où, assez rapidement, vont apparaître des véhicules automobiles.
Les premières pompes automobiles pour Paris, c'est aux environs de 1900.
Voilà. Alors, les premières pompes automobiles sont des véhicules électriques. Mais assez rapidement, ils sont remplacés par des véhicules à moteur thermique, donc des véhicules à moteur essence. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir une deuxième révolution après l'apparition de la pompe à bras, c'est la révolution mécanique des services d'incendie qui vont se doter de véhicules à moteur pour remplacer l'effort des bras des hommes à manœuvrer la pompe.
L'expression « fumer comme un pompier », ça vient vraiment du fait que la pompe à vapeur fume ?
Alors là, beaucoup de versions sont avancées. Ça n'est une, et je ne pense pas que ce soit d'abord les pompiers qui fument plus que d'autres, qui sentent la fumée pour la pompe à vapeur, mais peut-être tout simplement parce qu'ils sentent la fumée en revenant du feu. Ils sont fumés comme un pompier, mais fumés et pas fumés ER.
Alors la pompe, il faut qu'on s'interroge aussi sur la grande échelle.
Non, pas d'incendie dans cette page, mais une fête. Cela se passait lundi dernier à La Rochelle, où le préfet M. Thomas a remis au capitaine Brodeau la grande échelle dont vient d'être dotée la ville. Elle a une portée de 30 mètres et a coûté 150 000 nouveaux francs. Grâce à elle, les Rochelais qui habitent le haut de ces immeubles modernes peuvent désormais dormir tranquilles. S'il y a quelque chose, on pourra toujours venir les chercher.
La grande échelle, Dominique Pagès.
Alors la grande échelle fait partie des moyens de sauvetage, et très tôt dans l'histoire des sapeurs-pompiers, ce problème s'était posé. Depuis la nuit des temps, les échelles dans les campagnes autant que dans les villes ont trouvé des échelles. Donc c'était les échelles des particuliers qui étaient utilisées. Ensuite, les communes ont fait fabriquer des échelles de plus en plus hautes. On arrivait à faire des échelles à un plan jusqu'à 10 ou 12 mètres de haut. Puis des échelles qu'on appelait italiennes, qui s'emboîtaient les unes dans les autres. Vers 1830, la réflexion permet de fabriquer ce qu'on appelait des escabeaux de sauvetage. L'escabeau de sauvetage, c'était une espèce d'appareil qui était télescopique et qui était articulé par un système de treuil. Il se déployait comme un peu un pantographe, mais en beaucoup plus haut. Il arrivait à atteindre les 12 mètres de haut. Donc ça a été les premiers essais. Et puis, sous le Second Empire, en Troisième République, sont apparues vraiment des échelles spécifiques de sapeurs-pompiers, dont une la plus connue et celle qui a duré le plus longtemps, puisqu'elle était tirée par des chevaux et ensuite montée sur des camions pour devenir transportable, avait le nom de Rosalie. Je ne dirais pas pourquoi, mais l'échelle Rosalie, la Rosalie fait partie du souvenir de tous les pompiers de Paris et de province, comme un engin particulièrement lourd et difficile à mettre en œuvre.
Les souvenirs des pompiers de Paris et de province, comme si les souvenirs des pompiers de Paris et de province étaient communs. Un auditeur nous écrit: faut-il conserver un statut militaire aux pompiers de Paris et Marseille? Qu'est-ce que ça apporte? Les pompiers civils des autres départements déméritent-ils alors qu'ils sont civils? Pourquoi maintenir à grands frais ces unités verrues sans renier l'histoire, etc., etc. Vous passez pour plus démocratique, vous autres. Vous étiez commandant, fonctionnaire public, territorial d'une collectivité dans le Midi. Vous paraissez plus démocratique, vous, des services départementaux et autrefois des corps communaux. Écoutez ceci, les témoins de la démocratie que sont les pompiers sont l'objet de toutes les félicitations des édiles. C'est une chanson de Fred Addison.
Chez nous au village, on est à la page, car nous avons fondé une compagnie de pompiers. Ils se présentèrent chez monsieur le maire, qui fit un grand discours pour fêter ce beau jour.
Mes chers amis, je terminerai mon discours en levant mon verre, comme tu dirais pour ainsi dire, à la santé de la pompe à incendie et de son valeureux capitaine, le pharmacien Bézuquet, en espérant Tiens, j'ai perdu la fin de mon discours, moi. J'ai perdu mon dernier feuillet. C'est formidable, ça, mais qu'est-ce que j'ai... Ah, le voici. Je disais donc, à la santé de la pompe à incendie et de son valeureux capitaine, en espérant qu'ils seront heureux en ménage et qu'ils auront beaucoup d'enfants.
Mais excuse, monsieur le maire, vous avez dû vous tromper avec le feuillet des mariages. Nous avons bien rigolé. La fanfare a défilé. Avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers.
Vous avez entendu, commandant Pagès, le verre élevé à la santé du capitaine Bézuguet qui, dans le village, est pharmacien, comme vous avez failli l'être. Mais vous, vous êtes pompier. Mais alors, vous êtes pompier professionnel, fonction publique territoriale. C'est-à-dire que chez ces pompiers démocratiques disséminés à travers toute la France, il y a des professionnels et des volontaires. Pour que la démocratie règne, il faut par exemple que le concours soit impeccable, le concours d'accès au statut de professionnel. Il est impeccable.
C'est une question ou c'est une remarque ?
C'est une question.
Les jurys, dans leurs décisions, sont souverains. Je pense que je n'en dirai pas plus.
Alors, continuons. Pour que la démocratie règne, il faut que la rigueur, évidemment, soit à l'ordre du jour. Le rapport de la Cour des comptes, dépense en explosion des services départementaux de pompiers. C'est une remarque, là, toute chaude, de la Cour des comptes.
C'est malheureusement une réalité qui a une explication relativement simple. Les corps, avant d'être départementaux, étaient communaux. Ils étaient directement sur le budget de la commune et les communes étaient proches de leurs deniers. Il était souvent difficile d'obtenir des moyens importants pour faire fonctionner le service. Et puis il y avait une implication très forte du personnel et des volontaires, un peu l'esprit de clocher dans ce que ça peut avoir de noble, qui faisait en sorte d'être le plus efficace avec le moins possible. C'était un peu à la fois l'esprit et c'était un peu la compétition d'un corps à l'autre d'essayer de faire le mieux avec ce dont on disposait et en fonction des ressources de la commune, conscient qu'on ne pouvait pas être des gouffres financiers. La départementalisation a mis tout le monde dans le même sac et l'alignement s'est fait par le haut, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus ont permis à ceux qui avaient le moins d'avoir aussi le plus. Et c'est ce qui a fait que les budgets ont considérablement augmenté.
Dites-moi, l'auditeur se plaint de cette bipolarité et dit qu'il faudrait faire disparaître les unités militaires. Oui, mais la bipolarité a des avantages parce que les militaires, comme ça, ont une référence. Les salaires des civils, les avantages des civils.
Alors, il faut voir que les corps de sapeurs-pompiers militarisés l'ont été, tant à Paris qu'à Marseille. À la suite, ça a été des mesures de sanctions sur des incapacités des corps qui étaient civils, qui ont été militarisés. Donc déjà, c'est une bonne alerte pour les gens de savoir qu'il faut quand même être sérieux et compétent si on ne veut pas perdre ses avantages. Maintenant, le double système bénéficient sûrement aux uns et aux autres. Les uns militaires ayant souvent beaucoup de matériel, les civils ayant sûrement beaucoup plus d'avantages du fait de leur fonction publique et chacun profitant de l'autre pour revendiquer. Le même problème, la même dualité se trouve dans la police et la gendarmerie où chacun bénéficie des avantages de l'autre.
On comprend pourquoi les manifestations de pompiers tournent parfois mal. De toute façon, il y a une même évolution chez les sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille et dans les corps des services départementaux, le feu devient l'exception. Alors, vous avez les chats dans les arbres, vous avez les boas dans les cuvettes de WC, et vous avez les tortues sur les trottoirs.
Alors, c'est un nom un peu péjoratif qui n'aurait pas dû sortir du langage courant des casernes, mais le départ pour une tortue, c'est malheureusement une personne qui est découverte, une personne âgée qui est tombée, qui est souvent sur le dos et qui ne peut plus qui se débat pour essayer de se relever. on a un peu, les gens appellent ça une tortue. Bon, c'est pas très respectueux, mais c'est quand même significatif.
D'un travail devenu très difficile.
De la situation.
Les suicides, les malaises, les SDF. On pourrait dire maintenant que quand il y a le feu, le pompier est surpris.
Non, quand même pas, parce que ça reste la base du système, tant au niveau d'engins, des engins, de la formation. Le feu est moins spectaculaire de ce qu'il était, que ce qu'il était avant. Mais l'intervention elle-même, dans son déroulement, que ce soit un feu, que ce soit un accident chimique ou un accident de circulation, la procédure opérationnelle reste la même et c'est dans cet esprit que la formation continue à être enseignée.
Alors c'est un ancien commandant qui parle, collectionneur devenu historien, comme le sont les bons collectionneurs, Dominique Pagès, qui vient de publier aux éditions Gossen des garde-pompes aux sapeurs-pompiers. Je vous remercie. Lundi, le feu au milieu catholique, le blasphème au cinéma dans le cadre d'une journée Scorsese. Il est 14h, vous écoutez France Inter. Laetitia Gaillet, les infos, bonjour.